Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous commentons l'actualité avec vous, 0826 300 300. Vous pouvez également nous joindre, nous parler, nous voir sur le Facebook de l'émission Sud Radio. Vous allez sur Sud Radio, vous nous voyez et vous commentez, vous savez très bien le faire. Pour commenter l'actualité aujourd'hui, Laura Slimani, bonjour, conseillère bonjour. Municipale à Rouen, membre de Génération, candidate à l'élection européenne. Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Bonjour à vous.
Bonjour,
Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate et membre du CESE, Conseil économique, social et environnemental.
Bonjour.
Et Bruno Pommard, maire de Belleflou, dans l'Aude. Et vous êtes également des fondateurs du RAID. Vous avez même un t-shirt RAID 1985. C'est collector, ça.
Oui, c'est très collector. Bonjour, hein, Valérie.
Bonjour à vous. On va parler des manifestations de policiers en colère. Est-ce que vous comprenez le ras-le-bol de la police? Dans le même temps, le défenseur des droits, lui, estime, et on en a un petit peu parlé hier, que la France s'enfonce dans la répression. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Service public également sous le regard du défenseur des droits. Leur fermeture accélère la fracture territoriale. Donc, on va en parler. Et puis, le tableau de bord, je ne sais pas pourquoi, je crois qu'il y a un truc dans le reste de la phrase qui m'a fait faire ce lapsus. Tableau de bord des personnalités politiques, Nicolas Hulot, Alain Juppé et Ségolène Royal au top. Alors, est-ce qu'il faut être retiré de la vie politique pour être populaire? Allez, on va commencer avec vos coups de gueule, vos coups de cœur. Allez, un coup de cœur avec Jackie, un coup de cœur footballistique.
Un coup de cœur lyonnais surtout, ouais. Valérie. Certes, ce soir, l'Olympique lyonnais fait son match retour contre l'immense équipe de Barcelone. Mais mon coup de cœur, c'est sur le système mis en place par Jean-Michel Aulas.
Il faut bien parler dans le micro, parce qu'on ne l'entend pas bien.
Ce club qui s'est construit avec le plus possible de capitaux privés, qui en même temps est un lien social dans la communauté, entre des jeunes et des moins jeunes, des quartiers différents. Voilà, ce modèle est extrêmement vertueux. Il est très formateur. Hein. Benzema vient du centre de formation de Lyon et tout un tas de grands attaquants, donc il est vertueux, il se déploie au niveau européen.
Benzema, voilà, vertueux, j'ai du mal, mais...
Oui, oui.
En tant que joueur, Benzema est tout à fait vertueux, et je pense que si tous les joueurs français étaient aussi talentueux que lui, il y aurait sans doute pas de problème, même si on n'a pas trop de problèmes. Voilà, donc saluer, profiter de ce match retour pour saluer le modèle lyonnais et pas uniquement le modèle sportif.
Alors, Jean-Luc, on reste dans le sport.
Sport.
Dans le sport.
Ben moi, c'est l'équipe de France de biathlon. Ça peut paraître surprenant,
ah, hein,
mais biathlon est un sport qu'on a tous découvert, pas moi, mais comme beaucoup de gens dernièrement, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes et hommes et femmes excellents, notamment Martin Fourcade, mais c'est pas le seul, loin de là, puisqu'on voit qu'il est
femme et homme d'ailleurs, très performant.
Femme et homme, vraiment. Et c'est regardé par un million et demi de personnes. C'est-à-dire, c'est pas un sport mineur. Et c'est surtout un sport qui m'intéresse parce que d'abord, il y a à la fois un sport de précision qu'est le tir et à la fois le ski de fond. C'est-à-dire, c'est personnellement, je pense que c'est incompatible, mais ça l'est compatible. Voilà, et ils se débrouillent très bien, ils sont sympathiques. C'est pas un sport qui gagne beaucoup d'argent, c'est le moins qu'on puisse dire. La plupart du temps, ils sont douaniers ou gendarmes.
Tout à fait. Ouais.
Parce que c'est la seule façon de. Voilà. Et c'est un coup de chapeau parce que c'est un coup de chapeau réel parce que c'est un sport. Il y a plus de 100 pays qui participent, c'est-à-dire que c'est pas facile d'avoir des médailles. Et les Françaises et les Français sont excellents. Quand on regarde ça par rapport. J'ai rien contre le rugby, très loin de là, mais enfin.
Le rugby
chaque samedi ou chaque dimanche. C'est plutôt attristant.
Le rugby masculin.
Oui, je suis d'accord.
Les femmes ont gagné face à l'Irlande.
Les femmes ont gagné. Elles jouent extrêmement bien.
Elles
jouent très bien. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, la fédération française de rugby a mis un certain temps, mais quand ils se sont mis à soutenir l'équipe féminine et les équipes féminines, ils le font brillamment.
Laura, coup de cœur.
Oui, un coup de cœur un peu en décalé, mais j'avais quand même envie d'en parler. Puis de toute façon, il va falloir continuer à suivre cela. C'est le sursaut de vie du peuple algérien qui me touche à la fois en tant que femme politique et aussi en tant que femme tout court, puisque une partie de ma famille est venue d'Algérie dans les années 50. Et c'est vrai que cette histoire et ce qui se passe en Algérie, je pense que ça touche beaucoup de nos concitoyennes, de nos concitoyens en France. On a quand même une histoire avec ce pays qui est forte, qui est douloureuse. Et donc, je suis extrêmement émue de ce qui se passe, comme beaucoup beaucoup, je pense, et il va falloir suivre
et
très attentivement.
Parce que même, un peu
maintenant,
inquiète,
alors, à la fois, il y a quand même une grande victoire, je pense, et il faut le dire comme tel, avec le renoncement de Bouteflika à briguer un second mandat, mais en même temps, on voit bien l'entourloupe potentielle qui peut s'en découler. Mais je pense qu'aujourd'hui, le peuple algérien s'est réveillé et qu'il ne se rendormira pas. Donc il faut suivre ce qui se passe attentivement.
Oui, il faut suivre ce qui se passe, qui va être en face et comment les choses peuvent évoluer. Parce que pour l'instant, ça a été évoqué plutôt comme une ruse de Bouteflika.
C'est quand même le début, le système qui commence à craquer. Enfin, il faut pas. Il y a tellement de monde dans la rue. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui est irréversible.
Oui,
après,
irréversible,
effectivement, les politiques et la caste au pouvoir en Algérie va.
Bruno, vous aussi, ça concerne l'Algérie. Mais c'est un coup de gueule.
Alors, c'est vrai que c'est un mouvement pacifique et tant mieux, parce qu'on s'attendait peut-être pas à ça en Algérie. Et la preuve, c'est que ça se réalise. Mais en même temps, un coup de gueule par rapport, évidemment, à M. Mélenchon qui surfe toujours sur ces sujets-là. Pour peut-être essayer de glaner quelques voix, je ne sais pas, pour les européennes, parce qu'il est un mal, comme on dit, c'est d'exhorter la population française, en gros, à manifester encore plus, parce qu'il fait le parallèle avec l'Algérie, en sous-entendant qu'en France, on pourrait peut-être soulever un petit peu plus la population pour faire de grandes manifestations, pour faire changer peut-être la démission de Macron, je ne sais quoi, mais enfin bref. Voilà, encore une fois, un sujet sur lequel M. Mélenchon surfe, et il s'égare de plus en plus, c'est bien dommage.
Oui, c'est un commentaire.
Non, mais effectivement, je trouve que la comparaison est quand même assez maladroite pour le dire sobrement.
Et ceux, et on l'a déjà dit, je le dis parce que Bruno Pomard est là, ceux qui disent que les flics algériens sont beaucoup moins violents que les flics français, je pense que
c'est démagogique.
La comparaison est compliquée. Ouais. Moi, j'avais un coup de gueule, la mort du camembert AOP en 2021. Ça veut dire que si vous réussissez à être élu au Parlement européen, parce que ce sont des normes européennes qui aujourd'hui, vont faire que tout le monde, tous les camemberts pourront avoir le label AOP, c'est-à-dire appellation d'origine protégée, tout en étant un camembert pasteurisé qui n'a, vous le savez évidemment, pas le même goût. Donc c'est un vrai, vrai coup de gueule. Non ? Ça vous laisse comme un fromage au lent.
Tous les fromages.
Que l'Union européenne et certaines commissions, notamment la Commission européenne, continuent comme ça, et le côté détestation par les différentes populations européennes, notamment celles qui tiennent à des acquis sur la qualité de la nourriture et tout ça, c'est vraiment c'est incroyable parce qu'on a l'impression qu'ils n'apprennent rien par rapport à tout ce qu'on appelle les normes, hein, cette espèce de continuité dans le fait que on rajoute. Ouais. Ça n'a aucun sens, strictement aucun sens. Valérie, tu as raison.
Mais ça pose la question, c'est dans Libération, sur aussi l'utilité de l'Institut National de l'Origine de la Qualité, l'INAO, qui nous coûte très cher, 25 millions d'euros par an, et qui est financé par l'argent public et qui finalement ne sert pas à grand chose au final. J'avais aussi un coup de cœur sur lequel je pense que vous pouvez réagir, un coup de cœur et un coup de gueule. C'est un tribunal révolutionnaire qui a prononcé une lourde peine de prison contre Nasrine Sotoudeh. Je pense que vous êtes au courant, Laurence Limani, une illustre, une très célèbre avocate des militantes iraniennes contre le port du voile. Elle a été condamnée à de la prison.
À
35 ans de prison pour avoir brandi son foulard au bout d'un bâton. Enfin, il y a des femmes qui se battent, qui sont emprisonnées pour avoir porté le voile. Et ça rejoint un autre coup de gueule que j'ai aperçu ça sur les réseaux sociaux, une femme qui est allée à Montpellier dans un magasin Etam pour voiler en disant « je voudrais travailler ». Elle s'est fait rembarrer par la dirigeante, enfin, c'est ce qu'elle raconte. Etam tout de suite réagit en disant « mais ça ne fait pas partie de notre protocole, je ne comprends pas, dites-nous, ça s'est passé ». Et il y a Zineb El-Razaoui, plusieurs femmes en habitant qui montent au créneau en disant « ne nous laissons pas intimider par ces femmes qui font de la provoque et qui militent pour le voile », quand on voit qu'il y a des femmes qui aujourd'hui sont emprisonnées.
Je ne suis pas sûre que le parallèle soit très juste, mais moi je pense que c'est la liberté des femmes à porter ce qu'elles souhaitent, ce pourquoi il faut qu'on se batte. Je ne suis pas pour le port du voile et je pense qu'effectivement c'est un instrument de domination dans beaucoup de sociétés. Mais aujourd'hui, il n'est pas non plus acceptable qu'un certain nombre de femmes soient victimes de discrimination dans l'accès au marché du travail parce qu'elles portent le voile. Ça va à l'encontre de la loi, tout simplement. La laïcité ne permet pas cela.
Peut-être, mais c'est choquant. Enfin, moi, je trouve ça très choquant.
Mais c'est aussi maladroit de faire ce parallèle que de faire le parallèle que Mélenchon a fait en comparant les gilets jaunes français et le mouvement algérien.
Non, voilà,
il y a des femmes qui meurent pour avoir porté un foulard en France, mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut se battre pour la liberté des femmes à porter ce qu'elles veulent, des mini-jupes, mais aussi ce qui correspond à leurs convictions.
Oui.
Je te coupais pas.
Oui, j'en ai terminé.
Elle était aussi condamnée avec pas mal de coups de fouet, la prison, c'est beaucoup, mais les coups de fouet, en plus, ça rajoute à l'horreur. Hein.
Mais c'est les grandes démocraties, hein, l'Iran.
Ce que je tentais de faire avec ce parallèle, j'entends ce que vous dites, c'est que voilà, le voile, c'est pas un bout de tissu, encore une fois, c'est pas un truc anodin, c'est une oppression, et que même celles qui disent qu'elles le portent de façon... Alors, je vais me faire défoncer, je pense, qu'elles le portent de façon libre, c'est peut-être pas tout à fait aussi simple que ça. Voilà. Et que là, il y avait un peu de provoque.
La comparaison, et c'est vrai, est délicate quand même, je suis assez d'accord avec
Laura. Non, mais j'ai fait un peu de provoque si volontairement. Hein.
Mais Bernard Roucat, qui est un grand spécialiste de l'Iran, fait pas mal de... Enfin, déjà, il vient de sortir un livre, et puis il fait pas mal de conférences en ce moment, parce que on commémore, hein, on ne célèbre pas, enfin, de notre point de vue, les 40 ans de la révolution iranienne. Et dans son ouvrage, il rappelait un peu la manière dont les mollahs, à l'époque, avaient instrumentalisé le voile pour exercer leur pouvoir, alors que l'Iran n'avait pas forcément vocation à devenir la dictature qu'elle est aujourd'hui. Et il essayait d'expliquer la manière dont le clergé, finalement, parce que l'armée, parce que la police ne jouait pas ce rôle de consensus social, et bien le clergé, à l'époque, en Iran, jouait ce rôle de consensus social, et la manière dont ils ont été complètement dépassés par ces symboles qui sont devenus des symboles d'oppression aujourd'hui. Chez nous, c'est différent. Rappelons quand même que le grand historien des droites, René Raymond, avait été en charge d'une commission et à l'époque avait dit, et on ne pouvait pas taxer René Raymond d'être un islamo-gauchiste, loin s'en faut, mais il avait quand même prévenu en disant, faites attention, interdire cette manifestation, et encore une fois, je ne donne pas mon avis, mais interdire cette manifestation d'un signe religieux va disloquer la société, va opposer des communautés, et on en reparlera 30 ou 40 ans après, et il avait raison. Voilà. Donc, c'est pour ça que de dire Iran et France sur le voile, je pense que associer ces deux idées,
ça peut faire réfléchir aussi des femmes qui portent le voile, de voir 38 ans de prison, 148 coups de fouet pour avoir défendu une femme qui porte le voile. Ça interroge et ça reste
aujourd'hui. Il faut se rappeler que dans énormément de pays dans le monde, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes, voire sont des sous-citoyennes, n'ont pas le statut de citoyenne, et c'est inacceptable. Et il faut se battre pour ces femmes, mais il faut pas, justement. Je pense que notre combat ne sera d'autant plus juste qu'on ne met pas tout dans le même panier, parce qu'aujourd'hui, les femmes en France ont le droit de vote, le droit de s'exprimer dans l'espace public, le droit de travailler, et que c'est ça qu'il faut, c'est ça la culture de l'égalité qu'il nous faut défendre auprès de toutes les communautés.
Mais pourquoi on aurait
territoires.
Pourquoi un voile pour aller travailler?
Mais parce que si c'est la conviction
interdite
d'une personne,
dans l'espace. Mais moi, conviction, c'est de venir avec une couche-poussière sur la tête, comme le dit Zineb El Razaoui.
Dans le secteur public, il n'y a pas effectivement le droit de porter des signes religieux, parce qu'effectivement, il y a la neutralité du service public. Ça ne s'applique pas au secteur privé, et donc c'est ça la laïcité. Sinon, changeons la laïcité. Mais je pense qu'on va au devant de divisions profondes de la société française. Alors que moi, je souhaite que ces femmes qui portent le voile, peut-être par conviction, peut-être parce qu'on leur impose, ça existe aussi, elles puissent aussi avoir le droit d'exister dans l'espace public, parce que c'est finalement l'une des manières aussi qu'on leur permet de pouvoir s'émanciper, d'être au contact d'autres personnes.
Et donc, les empêcher le voile à l'école. On nous avait dit que si on interdisait le voile à l'école, les filles n'iraient pas à l'école. Elles y sont allées.
Mais c'est obligatoire l'école. Donc voilà, c'est pas obligatoire de travailler, malheureusement. C'est quand même pas le même débat, mais il y avait eu ce débat-là.
On va continuer à parler de l'actualité dans un instant. On va revenir sur notre tableau de bord des personnalités et puis le malaise des policiers, les policiers en colère avec vous, Bruno Pommard, et puis la France de plus en plus répressive. On attend vos réactions.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commencer l'actualité. On est très chaud ce matin, on est très en forme. Manifestation de policiers en colère hier. Est-ce que vous comprenez le ras-le-bol de la police? Alors c'est un peu provoque parce que vous êtes, vous auditeurs de Sud Radio, plutôt côté gilet jaune. Hier, on a fait une émission où vous souteniez effectivement les propos du défenseur des droits, Bruno Pommard. Vous étiez, vous, hier au Trocadéro. Des policiers et leurs proches ont lancé un appel, ont justement alerter sur cette colère des policiers qui, eux aussi, sont victimes de violences et puis de conditions de travail compliquées.
Oui, avec, l'association des femmes de policiers, ouais. D'ailleurs, hein, qui était mobilisée. Oui, pas beaucoup de monde, mais c'est pas grave, c'est sur le principe, c'est important de... Évidemment qu'on soutienne notre police, parce qu'on est, arrivé à un stade là où ça devient de plus en plus compliqué. En plus, le défenseur des droits, M. Toubon, en a remis une louche. Voilà, on sent que la police, enfin, pour avoir discuté avec eux hier encore, se sent un petit peu totalement, je dirais, délaissée. Et il faut ne
ils
surtout
sont
pas
entre oublier. Le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'on leur demande de faire.
Ils ne sont pas d'accord, je ne dirais pas jusque-là. Ils font leur travail de maintien de l'ordre qui est obligatoire, sinon c'est le chaos dans notre société. On le voit dans d'autres pays. Je crois que c'est important qu'on revoie un petit peu les modalités pas d'intervention à proprement parler, parce qu'en termes de maintien de l'ordre, on est très bon. Sur les DAR, les fameuses sections d'action rapide, effectivement, il y avait des choses à revoir en termes de technique d'intervention. Et là, maintenant, le sujet est sur la table, puisque j'entendais Yves Lefebvre, le patron des syndicats SGP Unité Police, dire qu'effectivement, il faudrait revoir un petit peu le dosage sur les fameuses balles de défense qui servent dans les interventions, peut-être revoir le dosage sur les cartouches, tout simplement. Mais encore une fois, le LBD, c'est gentil qu'autour d'une table, le défenseur des lois décide, je ne sais pas, avec quelques sûrement psychologues et intellectuels autour de la table qui ont dû penser que c'était nécessaire d'abandonner le LBD parce qu'il y a 20 personnes, et c'est triste, évidemment, qui ont perdu un œil, été handicapés, mais pour autant, il faut que les policiers se défendent sur le maintien de l'ordre, et pour se défendre, c'est la seule solution. Sinon, la solution qui viendra, ce sera les armes. On le voit chez Maduro, par exemple, qui est au Venezuela, une manifestation 40 morts, quelque chose comme ça. Bon, ben maintenant, si on veut laisser le LBD, il va falloir que les policiers se défendent. Pour se défendre, on n'a pas d'armes létales alternatives, et le LBD, pour l'instant, c'est la seule qui puisse répondre aux manifestations.
Oui.
On n'est peut-être pas obligé de viser la tête à chaque fois. Je regarde ça, je le dis. Hein, moi, je pense que... Je ne vais pas revenir sur Jacques Toubon, vous en avez parlé hier, mais je reviens quand même. Jacques Toubon n'est quand même pas le plus libertaire, le plus anarchiste que j'ai connu dans la vie politique.
Non, mais un homme peut changer.
Son époque RPR, effectivement, il n'aurait jamais osé porter ce genre d'idée. Aujourd'hui, quand il se regarde, il ne doit pas se reconnaître.
Au bout de ma pensée, c'est son rôle. À cela. Oui. Il est dans son rôle défenseur des droits. Il dit pareil, si vous regardez bien, quand il parlait d'immigration. Moi, il me surprend, ni en bien ni en mal, mais il me surprend parce qu'il est dans son rôle, il fait son travail.
Il s'habille en défenseur.
Il est normal, quand même. Si on parle de la fatigue des policiers, on en a déjà parlé, je redis une fois de plus qu'au bout de 17 semaines d'activité permanente, sans week-end, sans rien, évidemment, la police française, elle est ultra fatiguée. Elle en a ras-le-bol. En plus, elle ne touche pas grand-chose. Et souvent, d'ailleurs, Bruno, tu vas être d'accord avec ça, sur les revendications salariales des Gilets jaunes, globalement, la police peut être d'accord, ils touchent 1700 euros, 1800 euros net, et encore je suis gentil, même pas forcément cela. Donc évidemment qu'il y a une relation avec ça. Bon, mais sur le fond quand même, le nombre de blessés est chez les policiers, et chez les manifestants, quand on tirera le bilan, quand les Gilets jaunes arrêteront de manifester, je ne sais pas quand ce sera, on se dira, mais ce n'est pas vrai, c'est arrivé dans notre pays. Je ne connais pas d'histoire en France où un mouvement social, quel qu'il soit, ait duré aussi longtemps, et fait autant de blessés, autant d'arrestations, et du côté policier, il n'y a pas d'arrestation, mais des blessés du côté policier, et du côté manifestant. C'est absolument inédit. On est dans une situation inédite, et si on ne s'en aperçoit pas, on s'en aperçoit dans quelques semaines, parce que c'est l'arrêté dans laquelle nous sommes. Il y a eu trop de blessés, trop de blessés graves. Il y a évidemment, quand la police est fatiguée, tout d'un coup, on a des images, hein, malheureusement, maintenant, tout est filmé. On a des images incroyables où des gens je reproche à personne, hein, mais des gens qui passent dans la rue, je pense à ce couple de personnes âgées qu'on voit matraquer.
Oui, c'est ambigu.
Mais je suis d'accord
que dans l'image, c'est ça.
Mais d'accord, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Ils ont quand même plus de 60 ans. Hein, donc globalement, c'est pas la peine de les matraquer.
Il y a des vieux cons comme il y a des jeunes cons, pardon.
Oui, mais entre un jeune con et un vieux con qui prend, un coup de matraque sur la tête.
Le problème de l'image, l'interprétation de l'image.
Non, mais c'est sur l'interprétation de l'image.
Je suis d'accord.
Parce qu'il y a l'image, il y a l'image aussi du handicapé en fauteuil roulant qui se fait.
Je l'ai vu cette image.
Qui se fait gazer. Voilà, c'est abominable de gazer quelqu'un en fauteuil. On n'a pas le contexte du truc.
En même temps.
Oui, Bruno,
en même temps, je vous laisse la parole. En même temps, je voudrais dire que, encore une fois, les policiers sur ces interventions et autres, nombre de dossiers sont à l'IGPN actuellement, et nombre de fonctionnaires, je pense, risquent d'être sanctionnés. Il faut arrêter de penser que les policiers se permettent tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que s'il y a des cas révélés de fautes graves...
Beaucoup n'y croient pas, hein, Bruno Pommard.
C'est la fonction publique qui est le plus sanctionnée, Valérie.
3000 sanctions par
an. Donc il faut arrêter de dire les policiers, ils peuvent frapper...
Heureusement qu'il y a des sanctions. Elles sont toujours justifiées quand elles ont lieu, a priori.
Donc il
ne
faut pas dire qu'il
n'y
en a pas, surtout.
Heureusement, je veux dire, les policiers sont quand même le premier service public au contact de la population et dans un contact qui n'est pas toujours cordial. Donc, parce qu'il y a des délits, parce qu'il y a des agressions, parce qu'il y a de la violence et qu'ils sont là pour protéger, encore une fois, les gens.
Bon, on va y revenir, Laura. On a toute l'heure. Laura Slimani, vous allez avoir la parole. Bah, justement, c'est un teasing. Laura Slimani va parler. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Bruno Pommard, maire de Belleflou dans l'Aude, ancien fondateur du RAID, Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate et membre du CESE, Laura Slimani, conseillère municipale à Rouen et membre de Génération. Vous êtes également candidate à l'élection européenne et Jackie Isabello, communicant et cofondateur de l'agence Corioling. Donc Laura Slimani, on voulait vous entendre sur les violences policières, le ras-le-bol des policiers.
Ouais, je pense qu'on parle un peu de deux sujets en même temps et c'est ça qui rend le débat un peu confus. Mais d'abord, il y a quand même quelque chose qui est inacceptable, c'est effectivement cette souffrance au travail qui est celle des policiers aujourd'hui, qui n'est pas nouvelle, mais effectivement qui est accentuée avec le mouvement des Gilets jaunes, qui crée une surcharge quand même de travail et des manques de moyens qui du coup se font d'autant plus sentir. Et effectivement, ces policiers qui sont aussi là pour à un moment donné dénoncer le fait que 18 de leurs collègues depuis janvier, je crois, se sont suicidés. Donc on est quand même avec des liens quand même assez établis avec leur fonction. Donc c'est quand même extrêmement grave. Ce qui se passe. Et on a une situation qui, de l'autre côté, est aussi extrêmement tendue. Et moi, je pense que d'abord, à un moment donné, le gouvernement, il a aussi une responsabilité dans cette situation. Et il faut qu'il prenne ses responsabilités. Quand on a des policiers qui sont à bout, une population qui est à bout aussi et qui, tous les week-ends, prend quand même du temps pour aller manifester avec, effectivement, de l'instrumentalisation de la violence aussi, le rôle de l'État, le rôle du président de la République, c'est d'apaiser, c'est d'apporter des réponses politiques. Et je pense que c'est assez irresponsable aujourd'hui de la part d'Emmanuel Macron de repousser les échéances par rapport au grand débat national, puisque maintenant ça va être les réponses qui arriveront en avril, etc. Tout ça ne fait que nourrir cette tension qui monte.
Mais quelle réponse et à quelle question
aux questions qu'il a lui-même posées dans la lettre aux Français il y a maintenant plusieurs semaines. Voilà, les gens débattent, c'est sympathique, ils remontent dans les sondages, donc ils continuent. Mais en attendant, les gens, effectivement, les policiers commencent à être à bout. Les violences continuent les samedis après-midi. Les commerçants continuent aussi, finalement, de perdre du chiffre d'affaires, etc. Donc tout ça a un impact aussi sur l'économie française. Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas maintenant des décisions politiques qui apportent un peu d'apaisement. Et effectivement, M. Castaner, notre ministre de l'Intérieur, dont nous avons appelé à la démission depuis longtemps, parce que clairement, au vu des violences et de cette situation qui ne fait qu'empirer, à un moment donné, il faut aussi qu'il prenne ses responsabilités. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait des choses qui existent. Après, sur la LBD, moi, je pense qu'il y a le rapport du défenseur des droits, mais enfin, il y a aussi l'ONU, il y a aussi le Parlement européen qui condamne la France pour l'utilisation excessive de la force dans ces manifestations. Donc on ne peut pas non plus balayer ça d'un verre de la main. Alors j'entends bien qu'il y a des nécessités de maintien de l'ordre qui sont ce qu'elles sont et des violences qui existent aussi en face. Mais il faut quand même se poser la question effectivement de pourquoi dans un pays démocratique comme le nôtre on arrive à ce niveau de violence et est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des choses à apprendre de nos voisins européens et du monde entier en matière de maintien de l'ordre pour que les choses se passent plus pacifiquement.
Alors, Jackie Isabello, vous n'avez pas entendu.
Non, moi, je comprends la colère des policiers. Je vais dire quelques banalités, mais c'est vrai que Bruno et moi, on a pratiqué la boxe. Ici, vous sponsorisez le rugby. Le contact engendre de la blessure. Il y a eu des violences. Elles sont énormes. Ces violences dans un cadre qui est illégal, puisque nombre de manifestations n'ont pas été déclarées, ont forcé les forces de l'ordre et les représentants du maintien de l'ordre à réorganiser les doctrines d'emploi, à assigner à des missions qui n'étaient pas les leurs des gens qui faisaient un autre travail. Et ça, on ne sera jamais d'accord sur le constat. Mais là où j'aimerais emmener nos auditeurs, c'est quand vous avez un policier d'élite comme Bruno Gomard qui vous dit... Pommard, pardon. C'est Quentin Gomard. C'est un général, c'est un autre, pardonne-moi.
Bon,
écoute, d'être général, ça va, il peut t'arriver pire. Oui. Mais quand vous avez un policier d'élite qui vous dit, évidemment, nous aussi, on constate que ça n'est pas normal et on va faire des retours d'expérience parce que une police ou des forces de l'ordre démocratiques, derrière, ça compte ça. C'est pas là pour dire, on a cassé, on a rendu des gens handicapés et brisés dans leur vie. Ils vont faire les mêmes constats et ils vont se dire, comment on adapte ça ? Et que les gens l'entendent, eh bien, c'est un moyen de se dire, très bien, ça n'est pas parfait, c'est intolérable, mais les premiers porteurs de cette violence légitime eux-mêmes disent qu'ils ont besoin de réadapter la doctrine. Mais au départ, qu'on soit bien d'accord. Je veux dire, quand des parents refusent d'emmener leurs enfants sur des lieux de théâtre hors piste en ski, ils savent bien que s'ils le font, ça va être fun, mais que ça va être mortel. Quand on va participer à une manifestation et que cette manifestation, elle est illégale, eh bien, quelque chose qui est illégal quand elle confronte des populations, eh bien, c'est comme si on va faire de la boxe et qu'on n'a jamais pratiqué. Je veux dire, si on va provoquer quelqu'un qui s'appelle Christophe Bettinger et qu'on lui insulte sa maman, mais qu'on n'est pas en capacité de se défendre, ça va sans doute... Voilà, donc c'est... Je ne vais pas être trop long, mais je pense que c'est un point important et... En tout cas, de mon point de vue, je ne souhaite pas accabler ces gens qui font très très bien leur boulot et qui sont salués partout.
On a Pierre de Toulouse en ligne avec nous. Bonjour Pierre. Pierre, vous êtes là ? Pierre, la liaison ?
Oui.
Oui, allez, on vous écoute.
On ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais on vous donne la parole.
Bon, alors Pierre, ça bug. Comme on dit que ça bug. On a Tintin qui nous dit tout cela finira très mal, on est dans le tout répressif et vous, les journalistes, avez une très grande responsabilité. Évidemment, vous vous comportez comme des juges pour le moment avec la loi liberticide anticasseur. On est passé en démocrature. Notre mouvement va continuer. Sébastien nous dit qu'il y aura juste 2 ou 3 sanctions pour les policiers, histoire de calmer les gens, de dire que l'IGPN aura bossé. Mais sinon, ça partira à la poubelle. L'IGPN, fait pas, je vous dis, hein, ce qu'on nous dit, fait partie du ministère de l'Intérieur. Donc il y a une très forte défiance, évidemment, face à une possibilité de.
Et ce qui est sûr, c'est qu'en France, en fait, on refuse systématiquement de travailler sur la question de la relation entre la police et les citoyens. Je veux dire, là, on en parlait tout à l'heure, mais sous le mandat de François Hollande, nous, avec un certain nombre d'autres organisations de jeunesse, on avait porté la question des récépissés lors des contrôles d'identité. C'est une des propositions parmi plein d'autres qui peuvent être faites. Mais ce qu'on voulait, c'est surtout que ce débat-là sur l'apaisement des relations entre police et citoyens, il soit mis quand même sur la table. Et on peut pas... Il y avait eu une fin de non-recevoir systématiquement des ministres de l'Intérieur, quels qu'ils soient.
Il y a des policiers référents dans les collèges, il y a des choses qui discutent
avec ces organisations et qui se posent la question, parce qu'eux, ils sont en première ligne, donc ils voient bien ce qui se passe. Mais on ne peut pas en permanence repousser ce débat. Il faut mettre... Parce qu'on voit bien que ces violences policières, en fait, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est quand même qu'elles se concentraient et elles étaient ressenties par une partie de la population, et notamment les habitants des quartiers populaires, très fortement. Les Gilets jaunes, et la violence qui a eu lieu dans les manifestations, je conteste pas ce qui a été dit avant sur le fait que cette violence, elle vient aussi de manifestants et des conditions dans lesquelles ils manifestent. Mais à un moment donné, elle s'est étendue aussi à d'autres parties de la population. Et donc on voit bien que cette contestation, elle monte, et il faut, encore une fois, travailler sur la question de la relation entre la police et les citoyens. Il y a des choses qui se font en Espagne, au Canada, aux États-Unis, qui sont extrêmement inspirantes.
Sur cette question de la violence, juste un exemple, Valérie, si vous pouvez m'arrêter. Ouais. Quand vous voyez, Madame Slimani, que les sapeurs-pompiers sont systématiquement caillassés dans les manifestations,
que la relation avec la police,
que les gens qui viennent vous sauver, se prennent des
machines à laver sur la tête.
Bien sûr, mais
je veux dire. À un moment ou à un autre, les services publics sont défiés. Ces gens-là, les pompiers, sont des héros comme les policiers. Mais en plus, les gens adorent les pompiers.
Et quand vous voyez. Comment on en arrive là ?
Mais d'accord. Parce que je veux dire qu'à un moment, il y a des violences, pas tous en même temps.
On a retrouvé Pierre et après, vous donnez la parole, Bruno. Pierre, vous êtes là ?
Oui, mais je crois que ça fonctionne mal.
Alors allez-y, on va essayer.
Alors, je crois surtout que nous arrivons dans une sorte de déclaration
moderne. On vous entend pas, Pierre, je suis désolé, c'est la liaison est vraiment trop mauvaise. Bruno Pomard.
Je voudrais répondre à Mme Slimani. Concernant le lien avec la police, il y a du travail qui est fait. Il y a du travail qui est fait dans les collèges parce qu'il faut le faire avec les enfants en priorité. Ça, c'est un vrai travail. Le lien social, c'est comme ça qu'il se fait. Je vais parler pour ma paroisse parce que moi, je mets des actions depuis plus de 25 ans en place avec des policiers. J'ai 150 policiers dans mon association. On travaille au contact des enfants dans plus de 80 villes pour pour expliquer la fonction de policier, pour essayer de transmettre des messages. Mais en même temps, permettez-moi et excusez-moi d'aller dire que je suis un petit peu obsédé par Mélenchon, mais quand vous avez des hommes politiques, et il y en a quelques-uns, particulièrement à gauche, qui n'aiment pas par ADN, par philosophie politique ou je ne sais quoi, qui n'aiment pas le flic parce qu'il représente l'autorité, on en a l'exemple avec Jean-Luc Mélenchon et toute sa cohorte, effectivement, c'est compliqué après d'expliquer, et moi, aux jeunes, qu'un député de la République comme Mélenchon bouscule un policier et un magistrat et traite toute la journée les policiers de fachos, de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Et ça, à gauche, malheureusement, dans les partis de gauche, là, on le voit tellement souvent.
Vous faites des généralités,
mais c'est la vérité.
La police, c'est un service public comme un autre.
Il faut
le protéger, mais on dénonce des violences policières qui existent et qui ne sont pas aujourd'hui suffisamment dénoncées dans l'espace public.
On a Jean-Noël avec nous. Jean-Noël,
ça crée de l'attention.
Jean-Noël, bonjour.
Qui crée de l'attention, c'est les violences, c'est pas la non-réponse.
On vous écoute.
C'est les politiques qui créent l'attention.
Oui, mais ils parlent, je peux pas. Bonjour Valérie.
Bonjour Jean-Noël.
Bonjour à tous vos invités.
Bonjour.
C'est Jean-Noël, moi, je suis désolé.
Oui, oui.
Mais
je vous en prie. Moi, je suis assez quand même stupéfait de voir un petit peu la police régalienne. Quand elle va sur les manifestations où elle va taper sur des gilets jaunes, il y a beaucoup de blessés et certains, c'est irrémédiable. Et par contre, quand ils ont des consignes pour laisser faire, se laisser insulter, se laisser caillasser, se laisser éventuellement se faire assassiner, se laisser... toute force d'action qui sont faites délictueuses contre eux dans les banlieues, là par contre ça passe comme une lettre à la poste sous silence ou presque sous silence parce que il faut rien dire et rien faire, ils ne peuvent pas répondre, et je l'avais dit une fois, quand ils vont dans certaines banlieues ils rentrent habillés, ils ressortent en tutu, je me répète, mais ce que je veux dire par là c'est que ça fait 30 ans qu'on laisse faire les choses, et quand vous voyez d'autres pays, par exemple en Algérie, c'est calme, pourquoi ils se défilent calmement? Simplement au regard, ils ont compris qu'il faut pas les imbéciles, il faut défiler et pas casser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. Alors, sur la manifestation pour tous, quand le mariage pour tous, ils allaient caillasser des enfants et des jeunes et femmes âgées, j'ai vu. Là, par contre, c'est pas un problème. Et quand il faut aller en banlieue, aller faire quelque chose, tenir les banlieues, tenir ce qui se passe là-dessus, toute l'économie souterraine, toute l'économie indirecte, là, il faut laisser faire. Il y a deux poids, deux mesures, et les Français le voient très bien.
Ouais.
Les Français de base voient très bien tout ce qui se passe, et à un moment donné, la cocotte, elle va sauter, parce que ça ne peut plus durer cette histoire.
Ouais. Alors ce que vous dites, Jean-Noël, vous êtes nombreux à nous le dire sur Twitter et Facebook, à savoir à Grenoble, il y a eu des violences pendant 3 jours, 3 nuits, en particulier avec des voitures
suite
brûlées.
Suite à la mort de 2 jeunes dans une course-poursuite avec la police. Hein.
Mais
il faut aussi donner tout le contexte, parce que si on ne donne pas tout le contexte, après on recrée les tensions.
Il faut aussi donner tout le contexte aussi, c'est que les policiers n'ont pas, a priori, tué ces jeunes aux premières constatations.
Il faut attendre
les résultats de l'enquête.
Mais vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont pas a priori. Enfin voilà, c'est encore une fois, on est toujours dans le même.
Est-ce que ça mérite des voitures brûlées, des émeutes pendant 3 nuits?
Mais
si vous excusez en disant qu'il faut donner le contexte.
Je dis il faut donner le contexte entièrement.
Vous ne
pouvez pas dire qu'il y a des émeutes en disant qu'il n'y a rien eu et que c'est des émeutes qui ont été spontanées, qui ont décidé tout d'un coup
de voler des voitures.
Mais il ne mérite pas de mourir non plus. Est-ce qu'il méritait d'être poursuivi par la police?
Mais Laura,
personne ne dit ça,
Laura,
mais enfin, vous avez volé un scooter.
Mais Laura Simani, est-ce que je n'ai volontairement pas remis le contexte, parce que le contexte m'importe peu. Ce qui m'importe,
moi, il m'importe.
Mais le contexte, mais vous êtes en train,
gens, il importe.
Donc vous êtes en train de justifier le cassage, le.
Mais non, je dis qu'il faut donner le contexte quand on parle d'une situation.
Les policiers les suivaient à distance pour les. Voilà, c'est tout, ils ne les poursuivaient pas. Ça, c'est des informations précises. Maintenant, effectivement, c'est dommage en même temps qu'il n'ait pas de casque, qu'il ait un véhicule volé, etc. Après, on peut effectivement tout excuser, il n'y a pas de problème.
Quel est l'intérêt de donner le contexte? Il y a 3 jours d'émeute. Est-ce que les émeutes sont tolérables?
Mais pourquoi ces émeutes, elles émergent?
Donc vous les justifiez.
Je ne les soutiens pas, je ne les justifie pas, et vous mettez dans ma bouche des mots qui ne sont pas les miens. Mais on ne peut pas juste dire il y a eu des émeutes en ne donnant pas le contexte qui fait qu'il y a des personnes qui ont décidé effectivement de surfer sur un sentiment de mécontentement qui est celui d'une population et de jeunes qui effectivement ont parfois le sentiment d'être oppressés par la police. police par le biais de ces contrôles d'identité au faciès qui existent, dont on sait qu'ils existent en France et qui ne font jamais l'objet d'aucune mobilisation. Et donc voilà,
ce qu'évoque Jean-Noël, ce qu'évoquent nos auditeurs, c'est de savoir pourquoi il y a des émeutes, il y a des voitures brûlées et que la répression n'est pas la même.
Mais qu'est-ce que vous en savez qu'il n'y a pas de répression? Mais bien sûr qu'il y a de la répression.
Je voulais répondre à Jean-Noël, précisément, après je vais laisser Jean-Luc Benyamas parler.
Jean-Luc ne dit pas grand-chose.
Le travail qui est fait, il faut arrêter de taper sur la police, comme on dit encore une fois. Le travail, il est fait, il y a des bacs, il y a des compagnies d'intervention qui travaillent dans les quartiers. Effectivement, ces quartiers politiques de la ville, pour les grosso modo 150 quartiers où on a beaucoup de problèmes de trafic, etc. Effectivement, la police, je rappelle juste 150 000 policiers en France. On ne peut pas être partout, à toutes les portes, à toutes les fenêtres, c'est évident. Mais il y a du travail qui est fait en termes de chasse de la délinquance, etc. Et voilà, donc la police travaille. Il ne faut pas penser que la police ne fait rien dans les quartiers. Et le problème, ces quartiers sont tellement minés par le trafic, par tout ce qu'on peut imaginer, par l'islam radical dans d'autres
disparition des services publics.
Et les services publics, certes, mais en fait, ça n'empêche pas que... On a des gros problèmes de délinquance. Et pour les résoudre en totalité, la police seule, malheureusement, a beaucoup de difficultés à le faire. Mmh. Mais elle est présente.
Oui. Alors, Jean-Luc?
Ouais. Pourquoi je ne parle pas beaucoup? Parce que cette histoire-là des quartiers, d'abord, elle n'existe pas d'aujourd'hui, elle existe depuis au moins une bonne quarantaine d'années. L'extrême pauvreté de ces quartiers, je dis bien l'extrême pauvreté de ces quartiers, est le problème principal. Tellement principal, d'ailleurs, que dès qu'on en discute à l'Assemblée nationale, quelle que soit la majorité à l'Assemblée nationale, en commission sociale notamment, on dit « Oh là là, il faudrait mettre plusieurs dizaines de milliards, si ce n'est plusieurs centaines de milliards d'euros pour rattraper ce différentiel, cette fracture sociale totalement existante ». Problème après aussi de, tu l'as rappelé Bruno, de l'arrivée de l'islam radical, ce que j'appelle moi l'islamo-fascisme, dans les quartiers. Alors c'est pas majoritaire en France, mais ça existe profondément dans un certain nombre de quartiers. Bruno, tu dis 150 quartiers, il y en a beaucoup plus que ça, parce que 150 quartiers, j'ai au moins sur Marseille. Donc si tu veux, moi j'ai, ça veut rien dire, mais on les a. Oui, il y en a 80.
Les grandes.
Quand il y a des policiers qui sont dans différentes manifestations aujourd'hui, il n'y a pas que
les manifestations des gros quartiers.
Mais t'en as partout, autour d'Amiens, autour de Lille, autour de Vénissieux. Si tu regardes la carte générale, tu le sais très bien, t'as 1000 places.
Il y a 1500.
Oui, t'as 1000 endroits. Donc, à ce niveau-là, si on ne règle pas, et c'est la difficulté dont je parlais au début, le problème de pauvreté, d'extrême pauvreté qui existe dans les quartiers, on ne règle rien. Et il existe un certain nombre de jeunes qui sont... Moi, je n'excuse rien. Moi, ces histoires d'émeutes régulières, il y a un côté cow-boy, il y a un côté Far West là-dedans. Et donc, à ce niveau-là, comment on peut régler ça directement? Les policiers font extrêmement... En dehors des poursuites qui sont toujours dangereuses, je sais qu'à Marseille, moi, quand j'en discute avec des policiers de Marseille, souvent, ils ne poursuivent pas.
Il faut marquer une pause. On se retrouve. Alors, on va continuer. On va parler des services publics. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Retour dans le studio de Sud Radio. On est avec vous jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Bercoff. Je suis avec Bruno Pomard, Jean-Luc Benamias, Laura Slimani et Jackie Isabello. Je voulais qu'on parle des services publics. C'est dans son rapport annuel, toujours le défenseur des droits qui s'inquiète de l'état alarmant des services publics dans l'Hexagone, justice, hôpitaux, médecine. Selon lui, les services publics sont victimes d'une, je cite, évanescence croissante. C'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins, ils sont distants. Ils sont en retrait, en gros, ils sont incapables de gérer des situations complexes, mal implantées sur le territoire. Bref, ils ne répondent plus aux besoins des usagers. Ça rejoint certainement notre discussion de tout à l'heure.
C'est triste, mais c'est la réalité. Je vais prendre c'est pas vraiment un service public, hein, mais les distributeurs bancaires, quand j'entends que les banques disent non, on peut pas mettre un distributeur bancaire, il n'y a pas assez de gens qui viennent retirer de l'argent. C'est dans le monde rural, hein, généralement, ou dans les quartiers en difficulté. Mais on est dans quel monde, là? C'est-à-dire que un distributeur bancaire... Une rentabilité extrême. Extrême, parce que, évidemment, je sais bien que quand on met un euro, ça fait des millions, d'accord. Enfin, on est dans n'importe quoi. Pour les gens, c'est extrêmement humiliant. Enfin, c'est totalement ahurissant. Et c'est valable quand j'entends aussi que la SNCF dit maintenant, on va pouvoir vendre des billets de train dans le tabac. Je suis pas contre qu'on fasse des billets de vente dans le monde rural. Il faut un lieu de service public qui se maintienne. Mais pas partout. Enfin, je veux dire, on est dans quoi, là? On est dans le côté, tout est achetable. Tout est vendable. On est dans un truc qui est, et c'est une des raisons, hein, réel pourquoi ce mouvement des Gilets jaunes, que je ne soutiens pas particulièrement, je regarde ça sociologiquement, pourquoi il continue et il dure?
Parce que c'est une fracture profonde.
C'est une fracture très profonde.
Moi, j'étais il y a quelques semaines à Bernay pour soutenir le collectif qui... Bernay, pardon, c'est dans l'heure. Excusez-moi, oui, c'est vrai que c'est pas... En tant que Normande, je me dis tout le monde connaît Bernay, mais non, c'est une ville de 11 000 habitants à Bernay.
On a voulu voir Bernay, on n'a pas vu Bernay.
Non, mais j'en parle parce qu'en fait, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a annoncé hier que la maternité de Bernay fermerait comme un grand nombre de maternités. Je rappelle qu'en 20 ans, le nombre de maternités en France a été divisé par 2. On parle quand même de la vie des gens. La maternité, c'est la naissance et c'est la vie de la mère qui souvent peut être en danger. Il y a encore eu, je crois, une personne qui est morte aux alentours de 10 il y a quelques jours, notamment parce qu'en fait, elle n'est pas arrivée à temps au service d'urgence qui était censé s'occuper d'elle. Donc, on parle de la vie des gens. On est en train de supprimer des maternités partout en France avec des collectifs citoyens qui se mobilisent et qui ne sont pas entendus, avec un mépris de la part de l'administration en matière de santé qui est délétère pour aussi le climat. Et je rappelle juste cette petite phrase, mais qui veut tout dire, les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Vous avez de l'argent, vous arriverez toujours à trouver de quoi vous soigner, de quoi vous faire défendre lors d'un procès, de quoi aller retirer de l'argent. Tout ce que les services publics font, quand vous avez de l'argent, vous n'en avez pas besoin. Quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, les services publics, c'est votre patrimoine. Ouais. Est-ce que, effectivement, ce mouvement des Gilets jaunes, ces tensions dans les quartiers, elles sont aussi le témoignage de cette érosion et de cette fracture sociale qui s'aggrave aujourd'hui.
Et fracture numérique, 7,5 millions de personnes sont menacées d'exclusion numérique, ça veut dire privées d'un réseau Internet de qualité, alors qu'on est en train de dématérialiser tout virer les bureaux de poste, etc. Valérie, Bruno, vous qui êtes dans un petit village...
Oui, justement, c'est intéressant ce que vous dites. Je ne parle même pas d'Internet, moi je parle juste du téléphone. Je voyage au bout du monde, j'ai le téléphone en plein désert. J'arrive à téléphoner chez moi, de mon village, quand je veux appeler, je n'arrive pas à appeler Paris. C'est un truc de fou.
Bon, t'en veux de l'église.
Et également sur les services publics, effectivement, et j'en ai été, entre guillemets, la victime. La poste, tout simplement. Ben, la poste est fermée le samedi dans le petit village à côté de chez moi. Alors que les gens, lorsqu'ils sont en vacances, généralement, c'est le week-end. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Ben, toute la semaine, les services publics sont disponibles plus ou moins, et le samedi, en plus, c'est fermé. Voilà, donc, il faudrait raisonner. Je ne suis pas contre, peut-être, la réduction de certains services.
C'est ça le point, voilà.
Mais ne soyons pas dans l'extrême de la rentabilité.
Des maisons de services publics, on en parle depuis...
Et d'ailleurs, c'est mis en place.
Comme les maisons de santé, extrêmement utiles, que tu mets, que dans le monde rural, il y a une vie réelle.
D'accord, mais au-delà de la santé, c'est la poste,
c'est ça, le principe, les spécialistes de l'aménagement du territoire, vous le disent bien, c'est pas trop ou pas assez, c'est la juste dimension des services publics. On a vu que ces 20 dernières années, la transition numérique s'est opérée. Aujourd'hui, moi je suis allé faire refaire mon permis de conduire, on disait que c'était la catastrophe. Honnêtement, c'est hyper simple, c'est quand même pas très compliqué. On parle de fracture numérique, regardez la manière dont le troisième âge, et je parle pas du quatrième ou du cinquième, est arrivé à s'approprier les outils numériques. Et aujourd'hui, nos parents, c'est des dingues de Facebook. Le midi,
sauf
à dimanche,
sur le bureau, tu peux poser ton téléphone. Comme mon père, par exemple.
Attendez, j'ai pas terminé. Donc le troisième âge, quand même, a progressé. Maintenant, le quatrième et le cinquième âge, eh bien, une grand-mère qui souffre de DMLA, elle est absolument incapable d'utiliser un service public dématérialisé. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis après, c'est la manière dont les travaux vont permettre de d'hyper-numériser. Jean-Michel Billot, il y a 30 ans de ça, qui était le grand spécialiste chez Paribas, avant que ce soit BNP Paribas, parlait de ce plan de numérisation haut débit. Ça avance assez lentement. Mais alors, pourquoi ça avance lentement aussi? Parce qu'en France, on est quand même champion du monde des manœuvres dilatoires pour ne pas avoir un trou devant chez soi, pour ne pas avoir des travaux devant chez soi. Et quand les opérateurs n'arrivent pas totalement à déployer la fibre ou encore, eh ben c'est parce que vous avez un voisin qui, de temps en temps, vous dit « Ah ben ça, moi je ne suis pas d'accord, je vais déposer un recours. »
On n'en est même pas là.
Les choses sont un peu quand même assez complexes. Et juste pour terminer, le sujet des maternités, il faut arrêter, c'est comme les vaccins. Je veux dire, vous avez des gynécologues obstétriciens qui se sont affirmés en disant « Les maternités, on ne les retire pas pour tuer du monde. Quand un gynécologue obstétricien ne pratique pas assez, il est dangereux pour la mère qui va. »
Dans la maternité de Bernay, il n'y a jamais eu un accident.
On ne meurt pas.
Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des...
Je n'ai pas envie qu'on fasse ce débat. Il est très compliqué.
Il est un peu compliqué.
Ce débat est compliqué.
Il va y avoir des morts à cause de l'éloignement des maternités.
Il y a
une enquête qui a été ouverte.
Je pense qu'on peut vous renvoyer.
Là, il y a une enquête ouverte et vous avez déjà les conclusions. Alors tout à l'heure, pour la
police, du nombre d'accouchements. Il y a une augmentation du nombre. Non, mais ça, c'est très concret. Il y a une augmentation du nombre d'accouchements dans les véhicules d'urgence.
Il y a aussi, Laura Slimani, des arguments qui disent l'inverse, à savoir que ces maternités, petites maternités, sont dangereuses.
Bien sûr, il faut trouver des arguments pour justifier ces fermetures. Juste, ce qui justifie cette fermeture, c'est la baisse des dépenses publiques. Point barre.
Alors, c'est ce que j'allais dire, Jean-Luc, qui nous dit le service public, c'est pas de faire du fric. En plus, et c'est un petit peu ce qui aujourd'hui régit le service public, c'est-à-dire le but de, c'est de gagner du fric.
Je peux juste dire un truc, Valérie.
Non, c'est fini, c'est fini.
Paris 15e, on a fermé une super maternité.
C'est fini, merci à tous les quatre. On fera le débat sur la maternité une autre fois. Merci à tous les quatre.